qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est sans doute ce qui nous manque le plus en ce moment et depuis un an maintenant. Cet élan quand on se lève chaque matin et ce sentiment de faire partie du monde avec d'autres. Heureusement, le cinéma est là pour l'exprimer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous manque tellement ce grand écran, ce grand miroir. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous. Vivement que ça rouvre.
La vie au cinéma est plus intense, elle va plus vite. Le cinéma, c'est le mouvement, oui, l'élan vital, le désir aussi. C'est le thème qu'il a choisi d'explorer ce matin. Bonjour Philippe Leguet.
Bonjour.
Cinéaste, L'année Juliette, Le coup de la vie, Les femmes du sixième étage, Alceste, à bicyclette, entre autres. Cinéphile depuis l'enfance, le cinéma est rassurant pour qui a peur de la vie. Dans votre liste ce matin, des fermiers, un clochard, un maître d'hôtel, un kayak, Rome, Manhattan et l'Irlande. Et pour poursuivre cette liste idéale, surtout pour tenir le coup, nos choix de livres et de DVD. Entrons maintenant dans ce magasin de chaussures. Une musique comme un chant de sirène. Le jeune homme s'approche, caméra subjective, une apparition, une femme blonde aurait une fourrure blanche, choisissant des escarpins dans la vitrine.
Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Le magasin est fermé. Si toutes les clientes faisaient comme vous...
Ah, mais si toutes les clientes faisaient comme moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabac. Je suis la femme du patron.
Oh, excusez-moi, je suis vraiment confus, je suis désolée.
Non, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail, c'est vous le nouveau.
Oui, c'est moi, oui.
Antoine, c'est ça?
Le réalisme du lieu, la féerie de la rencontre, celle d'Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo et de Geneviève Tabar, Delphine Seyrig et La naissance du désir, Baiser volé, François Truffaut. Filmer le désir, Philippe Leguet, c'est compliqué.
Je crois que le cinéma a à voir avec le désir, mais vraiment dans son sens large, dans le sens où le désir, au fond, c'est un peu coïncider avec le monde. C'est-à-dire, c'est avoir une pulsion de vitalité en soi, qui fait que on est dirigé vers les autres hommes et femmes confondus. Le désir, ça peut être bien évidemment le désir d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme, mais c'est aussi cette espèce de d'élan qui nous pousse à nous lever le matin, à regarder le monde sous nos yeux et éventuellement en faire partie.
Et choisir ce thème en ce moment, c'est à cause justement de ce qui nous empêche.
Alors, beaucoup de choses nous empêchent, mais justement, par exemple, vous voyez, ce matin, il y avait ce soleil merveilleux dans Paris, dans la capitale. Je suis venu en bus, j'ai vu les quais de Seine, c'était splendide. Et je me suis senti réconcilié, je me suis senti en état de désir. Et je fais quand même une petite parenthèse sur l'extrait que vous venez de mettre de Baiser volé. Il se trouve que j'habitais tout près de l'endroit où Truffaut a tourné le magasin de chaussures quand j'étais enfant. Et le magasin de chaussures s'appelait Maralex. Et c'était, je crois, Avenue des Ternes. Et quand j'ai vu, c'est là où ma mère nous emmenait pour choisir nos chaussures quand on était enfant. Et quand j'ai vu le magasin de chaussures dans Baiser volé de François Truffaut, je me suis dit, mais alors, tous les magasins de chaussures ressemblent à ce magasin, voilà.
Et avec cette apparition dans la vitrine de Delphine Seyrig, Geneviève Tabar. Dans votre thématique et celle de l'élan vital, en tête de votre liste, il y a un grand metteur en scène américain, c'est King Vidor. Et pour un film assez méconnu, un trésor qu'a fait revivre les éditions Lobster, c'est Notre pain quotidien 1934. On écoute ces bruits de faux de... En fait, c'est une tournée pendant la Grande Dépression des années 30. L'Amérique vient d'être frappée par la crise. Un couple au chômage, au bord du gouffre, hérite d'une ferme dans les plaines de l'Est. Là-bas, ils vont constituer une mini-société de déshérités régie par le troc. Le but, la réussite collective face à la fatalité. Et qu'est-ce qu'on voit là à l'écran
Voilà, c'est des urbains qui se retrouvent à la campagne pour réinventer leur... Ils sont tous ruinés, ils sont tous sans espoir, et ils décident de faire cette collectivité.
Ouais.
On est en plein New Deal, c'est vraiment c'est Roosevelt, c'est l'élan, c'est être ensemble. Et ces fermiers qui n'y connaissent rien plantent des champs de blé, des champs de maïs, et au fur et à mesure que le film avance, l'eau n'arrive pas.
Ouais.
Et finalement, cette collectivité va arriver à la catastrophe, et tout à coup, en fait... La nuit, ils entendent un barrage, les pompes du barrage qui sont à quelques kilomètres, et ils décident de creuser une sorte de canal pour amener l'eau du barrage sur leur récolte desséchée. Et cette scène qui dure à peu près 10 minutes où on les voit creuser et où finalement l'eau arrive comme une sorte de fontaine de vie et les personnages, on voit la digue à un moment, cette espèce de rigole se brise et on voit un homme se jeter faire de son corps avec la terre, empêcher que l'eau s'écoule et arrive et finalement parviennent à ce champ. C'est ce moment à la fois collectif, vital, l'énergie de cette eau.
Oui.
C'est vrai, au cinéma, l'eau, c'est quand même un grand thème. Il y a évidemment, il y a le fleuve, il y a la rivière. L'eau, c'est la fécondité, c'est la fertilité. C'est aussi une sorte de, le désir passe aussi par l'eau. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont filmé le chatoiement de l'eau, l'énergie de l'eau. Et Vidor y parvient de manière bouleversante. Et à la fin, finalement, l'eau arrive dans...
Et les paysans sont en bas et attendent.
Une sorte de bacchanal.
De bacchanal.
Ils se précipitent dans l'eau, dans l'eau.
Voilà,
c'est étonnant.
C'est complètement jubilatoire, ouais. Exaltant. C'est le triomphe du destin, contre le destin, contre la fatalité. Et c'est vrai que Vidor a filmé le désir. On pense par exemple à Duel au soleil, avec ce duel hallucinant de Jennifer Jones et Gregory Peck.
Gregory Peck,
qui se tue. Parce
je pensais à aux rebelles.
Tellement ils sont... Mais le désir chez Vidor, c'est vraiment... C'est une sorte de pulsion vitale. Quoi. Voilà, c'est quelque chose de... Et qui est particulièrement sensible dans ce film.
Et puis aussi, c'est un metteur en scène qui célèbre les hommes qui luttent aussi pour leur indépendance.
C'est vrai. Alors, il y a Le Rebelle, avec Gary Cooper, qui est un film que j'adore.
Oui, on peut le recommander, Le Rebelle. Hein, architecte pur et dur qui n'accepte aucune concession.
Et la scène, et la relation torride qu'il a avec Patricia Neal, l'actrice, elle le voit marcher sur un sentier, elle arrive à cheval et elle lui cravache le visage parce qu'il l'a, au fond, il l'a dédaigné de la regarder. C'est une scène foudroyante.
Et ce film donc de King Vidor de 1934, édité par Lobster, je le rappelle parce que c'est un sacré travail.
Et leur autre film.
Oui.
Très vite.
Et qui s'appelle Notre pain quotidien.
Découvrez-le.
On va revenir à l'individu, retour à l'individu, l'homme et son désir en toute liberté, un vagabond, un solitaire, boudu, Michel Simon, sauvé des eaux, celle de la Seine dans laquelle il tentait de se suicider après la mort de son chien, sauvé par un bourgeois, un libraire, l'Estingois. Il va installer Boudu chez lui, c'est un film de Jean Renoir de 1932. Boudu, c'est un peu le messager venu d'ailleurs, celui qui agit un peu comme un révélateur dans cette famille.
Oui, c'est vrai, c'est avant la lettre, de manière plus triviale et plus truculente, c'est une déclinaison du personnage de Pasolini, de Terence Stamp, qui séduit toute la famille. Mais en réalité, le véritable père spirituel de Boudu, c'est Charlie Chaplin, c'est Charlot, c'est le vagabond. Et Chaplin, et d'ailleurs on s'en est rendu compte dans le merveilleux documentaire de 2h30 d'Yves Jolande, qui a fait un triomphe sur France 3, Charlot, c'est un être de désir. Il est là sur la route, il y a une première femme qui passe, puis une deuxième, il hésite entre les deux, et puis finalement il y a une troisième qui va finir par suivre. C'est l'élan vital, c'est aussi le vagabond qui lutte chaque jour pour trouver son quignon de pain. Et Boudu est vraiment l'héritier de Charlot. Renoir adorait Chaplin. D'ailleurs, il en a fait une sorte d'incarnation dans la règle du jeu avec le personnage de Carrette. Il adorait Chaplin, mais il adorait aussi cette pulsion de vie. D'ailleurs, je crois que c'était André Bazin qui avait dit, est-ce qu'il y a un usage de la musique très particulier dans Boudu, notamment de la trompette. Et je crois que Bazin avait dit, à chaque fois qu'on entend de la musique dans Boudu, ça veut dire qu'un personnage bande. Je trouvais ça. Surtout André Bazin qui était quand même assez puritain, très
catégorique.
C'est un commentaire très singulier. Et Boudu est effectivement cet être de liberté et de désir.
Et il va séduire et la servante et la maîtresse de maison, la bourgeoise.
Qu'est-ce que vous avez là?
Qu'est-ce que j'ai?
Je crois.
Ici?
Oui.
C'est un grain de beauté.
Ah?
Que vous disais-je donc?
C'est pas vrai, pourquoi vous avez un grain comme ça?
Revenons à nos moutons.
Je te dis, Emma.
Monsieur Boudu, je vous prie de ne pas oublier le respect que vous me devez.
Mais je dois du respect.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais oui, certainement. Pourquoi faites-vous ces grimaces? Vous me faites peur à moi.
Ah, t'as peur,
oui,
Emma.
Mais oui, j'ai peur, j'ai bien peur.
Pas
oui.
Peur, Emma.
Oh, mon Dieu, Boudu. Oui, oui. Ah, mais non.
Oui, là, oui, mais non. Boudu sauvait des ondes, donc, de Jean Renoir. Alors, lui, c'est un homme libre, mais comme Boudu, mais qui a choisi le métier de maître d'hôtel et qui éprouve même un certain plaisir dans la contrainte, c'est Désiré, de Sacha Guitry en 1937, avec Sacha Guitry dans le rôle principal, Jacqueline de Lubac. Pourquoi ce choix?
Je crois qu'à chaque fois qu'on parle de Sacha Guitry, on est du côté de la désinvolture, du charme, de l'élégance. Sacha Guitry, il n'a pas toujours bonne presse, il est considéré comme un peu misogyne,
oui.
un peu réactionnaire, et pourtant lui aussi c'était un homme libre. C'est-à-dire qu'avec son théâtre, il avait une forme de liberté, d'indépendance, et il a filmé ses pièces, mais en leur insufflant sa fantaisie, son esprit, évidemment, cette liberté de langage qu'il avait, et à sa façon, un peu comme Pagnol, ou même Cocteau, tous ces grands écrivains qui se sont emparés du cinéma l'ont fait avec une sorte de, je dirais pas d'ignorance des lois, mais une façon d'être affranchi, disons, des obligations professionnelles. Et il y a chez Sacha Guitry vraiment la vitalité et aussi un sentiment de liberté qui passe par
la parole, voilà. Le flux des mots,
ouais, qui passe par la parole, ouais, bien
incroyable,
sûr,
ouais. Une parole désirante en permanence.
Et justement, vous avez choisi la fin du film, ce monologue de Désiré Sacha Guitry vers Jacqueline de Lubac qui est sa patronne. On va écouter un morceau de ce monologue.
Eh bien, madame, ce que j'avais fait avec la comtesse, je l'avais déjà fait dans deux autres places auparavant. Oui, madame, la comtesse était le coup de trois. Et comme pendant les 8 jours où je suis resté sans place avant d'entrer chez madame, comme pendant ces 8 jours-là, aucune des femmes que j'ai pu voir dans la rue, dans le métro ou bien ailleurs, comme aucune ne me disait rien, moi je me disais, Désiré, mon ami, si tu ne dois plus avoir envie que de tes patronnes, tu es un homme perdu. Et madame, imaginez ça, un domestique, un homme qui a 2 ou 3 raisons à se considérer encore comme un homme assez jeune et qui n'est plus attiré que par des dames qui sont ses maîtresses, mais dont il ne peut pas être l'amant. Oh, madame, il faut avoir son métier dans le sang pour comprendre ce que ma situation avait de tragique, car je l'aime, mon métier, madame, je l'adore, j'en suis fou. J'entendais l'autre jour monsieur qui parlait à madame de la volupté de commander. Je ne dis pas le contraire, mais si madame pouvait savoir ce que c'est que la volupté d'obéir, servir, madame, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est avoir le droit d'être sans volonté, allumer le feu, fermer la porte, ouvrir la fenêtre. Toutes ces idées-là, c'est les autres qui les ont. Et alors, quand en plus, c'est une voix de femme qui vous commande, surtout un peu durement. Ah, ça, c'est une sensation délicieuse. Ce que j'ai pu envier les esclaves, moi. Voilà donc dans quelle situation je me trouvais au bout de 3 jours que j'étais chez madame. Je faisais mon métier, madame ne me disait rien. C'était merveilleux. Et le 3e jour, au milieu de la nuit, crac, tout change. Voilà que je me mets à rêver de madame. Oui, madame, moi aussi. Un de ses rêves où il n'y a rien d'impossible. Madame voit ce que je veux dire. Un de ses rêves où les choses se passent comme elles se passeraient si elles devaient se passer. Le lendemain, ça recommence. Et voilà 4 jours que ça dure et que je suis au supplice. Cette nuit, je viens me coucher là pour que si ça devait me reprendre, madame au moins ne risque pas de m'entendre, car on parle en rêvant quelquefois, paraît-il. Bon, je m'endors, je me réveille, tout à coup, et qu'est-ce que je vois? Madame, couchée dans la même pièce que moi. Madame qui passait en somme la nuit avec moi. Madame qui venait de m'appeler par mon nom en dormant. Madame qui rêvait la même chose que moi. Et madame me demande pourquoi je veux m'en aller.
Désiré de Sacha Guitry, il est amoureux et politique en même temps, hein, ce monologue, par rapport aux conventions, aux milieux sociaux, opposition de l'un et de l'autre.
C'est vrai que Sacha Guitry, c'était un grand bourgeois qui habitait un hôtel particulier, qui avait des tableaux de maître, et il se donne le rôle du domestique, mais il garde avec lui cette espèce de...
Sa superbe.
Oui, sa superbe, ce sentiment de classe qui lui autorise, au fond, à transgresser cette loi de sa place de domestique. Et il y a le thème de la transgression est omniprésent chez Sacha Guitry. Le roman d'un tricheur, bien sûr, est une célébration joyeuse et insolente de la transgression du mensonge, puisque le tricheur, au fond, est le seul épargné à la suite de cette omelette en champignons empoisonnée qui va décimer toute la famille, qui va faire du tricheur, au fond, un homme riche et indépendant. Il y a cette immoralité joyeuse de Sacha Guitry et qui explose avec ce personnage de Désiré.
Et sa patronne, c'est une actrice qui aimerait bien se marier avec son amant qui est un ministre qui se mariera jamais avec elle.
Alors en plus, ce qu'il y a de magnifique, c'est que comme c'est Jacqueline Lubac
qui était la compagne
de Guitry. Femme, oui, c'était, je crois que c'était sa troisième ou quatrième femme. Et il y a quelque chose qui se joue presque comme un documentaire. Hein, c'est-à-dire que, et elle, d'ailleurs, elle a des gros plans, elle a des contre-champs où elle est tout à la fois séduite, outragée. On sent qu'elle cède à ce torrent de paroles qui la submerge.
Et n'oublions pas la présence d'Arletty dans ce film aussi. Hein.
Ah oui, Arletty est solidaire avec Désiré.
Oui.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase où ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font les patrons? Mais ils n'arrêtent pas de parler de nous, de nous les domestiques. Heureusement qu'on est là, sans ça, ils n'auraient plus rien à dire.
Oui. Je l'évoquais en ouvrant cette heure, cet élan quand on se lève chaque matin pour se donner du courage. En fait, il faudrait se passer ce morceau à chaque jour qui se lève.
I feel this is my lucky day, March 23rd.
Oh, no, your lucky day is the 24th.
What do you mean the 24th?
It's 1:30 already. It's morning.
Yes, and what a lovely morning. Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning.
On n'en finira jamais de passer chantant sous la pluie. D'ailleurs, je crois que c'est dans Crimes et Délits où le personnage de Woody Allen, dès qu'il a un moment de dépression, il a chez lui une vieille copie 16 mm de Crimes et
de chantant sous la pluie.
Chantant sous la pluie, et il regarde inlassablement chantant sous la pluie. Et c'est vrai, Good morning. Alors en plus, dans le récit, ça vient à partir d'un moment d'impasse. Ils sont complètement Ils n'ont plus d'idées, le film qu'ils ont tourné est une catastrophe, et tout à coup leur vient l'idée de chanter les chansons, enfin de refaire les chansons en post-synchro, voilà. Et tout à coup, c'est brusquement, ils se réveillent après cette nuit de dépression. Enfin non, ils se réveillent pas. On les a vus mariner pendant toute cette nuit blanche, et tout à coup l'élan les reprend et s'adresse à nous évidemment et à ce besoin qu'on a de coïncider avec le monde qui nous entoure.
Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor.
J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes.
Mais non, vous n'enfoncez pas de portes ouvertes, Philippe Le Guay, absolument pas. Et on est super contents un samedi matin de réécouter cette chanson. Ouais. Tiens, on va vous faire écouter une autre chanson. On part en Irlande.
It is a pleasant evening and we will have a drink.
There was a wild colonial boy, Jack Duggan was his name. He was born and bred.
L'Irlande, son folklore, l'Irlande généreuse et volcanique. Dans la première histoire d'amour réalisée par John Ford, l'homme tranquille, en 1952, le retour du boxeur Sean Thornton, c'est John Wayne, dans son Irlande natale pour y coller des jours paisibles. En rachetant le cottage de son enfance, il s'attire les foudres de celui qui le convoitait, Will Red Danaher, et tombe amoureux de sa sœur, Mary Kate Maureen O'Hara. C'est bien sûr donc l'homme tranquille, merveilleux film, Philippe Le Guay. Quel plaisir on a eu de le revoir une énième fois.
L'homme tranquille, c'est un film que j'ai vu en pension. D'ailleurs, c'est très curieux parce qu'il y a plusieurs films que le film de King Vidor également, Notre pain quotidien, c'est un film que j'ai vu en pension. J'étais avoir 12 et 13 ans. Ah, oui. J'étais en pension chez les Oratoriens et il y avait un ciné-club. Et le week-end, on pouvait rester découvrir des films comme ça. La fille qui faisait la programmation était formidable. Il y avait aussi un prêtre, le père Caffin, qui m'a éduqué, disons, dans cette cinéphilie. C'était un prêtre très ouvert. Il pouvait passer aussi bien les films de Buñuel que ceux de Fellini, donc des films qui étaient parfois violemment contre la doxa catholique.
Ouais.
Et évidemment, alors l'homme tranquille, c'est le film de la nostalgie.
Ouais.
C'est John Ford irlandais vivant aux États-Unis qui revient en Irlande et qui capte à travers ce récit, mais qui capte quelque chose qui est vraiment de son émotion, de retrouver ses racines, cette origine.
C'est une Irlande fantasmée, presque, un peu.
Voilà, alors c'est une Irlande fantasmée.
Ouais.
Il ne dit rien
de la politique.
De l'IRA,
ouais.
Il ne dit rien des attentats, il ne dit rien de la tension volcanique.
Ouais.
Le prêtre et le pasteur vont finalement pêcher ensemble.
Ouais.
Donc, c'est vrai que le film, disons, parfois à choquer ou en tout cas à déplu à ceux qui voulaient montrer l'Irlande dans sa réalité, mais le film raconte autre chose. Il raconte vraiment le sentiment d'appartenance, d'appartenir à un lieu. Et cette femme merveilleusement jouée par
Maureen
O'Hara, la rousse flamboyante.
Ouais.
En plus, il tourne ce film en couleur.
Technicolor magnifique.
Technicolor, oui. Et on sent vraiment une sorte qu'il n'y a pas de coupure entre l'homme et ce qui l'entoure.
C'est surtout l'histoire de la renaissance d'un homme, hein, ce film, l'homme tranquille.
Oui, c'est vrai.
Il renaît dans son pays d'origine.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il y a un conflit puisque il s'oppose au personnage d'Andrew McLaglen, dont il convoite la sœur. Il y a quelque chose, il y a aussi tout un jeu sur le puritanisme et cette Irlande corsetée qui fait que d'ailleurs le désir n'en est que plus fort.
Ils se sont croisés à l'église le matin. Il a fait un geste fou. Il a pris l'eau du bénitier dans ses mains à lui pour qu'elle vienne le toucher sa main. Et vous avez choisi cette scène ultra célèbre, cette image. C'est lui qui rentre, qui retrouve le cottage de son enfance. John Wayne donc s'approche avec sa casquette et son imperméable. Il vend dans les arbres. Il ouvre la porte. Il voit un balai par terre, un feu en fond. Il ferme la porte. Maureen O'Hara, elle est cachée. Elle le regarde. La porte claque, on l'a entendu. La ferme. Et puis, pour éveiller la curiosité de cette femme, il va lancer un caillou dans la vitre. Elle a peur et elle va apparaître. Et là, elle veut sortir, ferme la porte.
So bold one you are.
And
who gave you leave to be kissing me?
Qui vous a donné le droit de m'embrasser?
Yes, I can, I will, and I do. And it's more than talk you'll be getting if you step a step closer to me.
Don't worry, you got a wallop.
Mais bien sonné.
Well, some things a man doesn't get over so easy.
Certaines choses ne passent pas facilement, lui dit-il.
Like, what, supposing?
Like the sight of a girl coming through the fields.
Comme une jeune femme qui traverse les champs, le soleil dans les cheveux, et qui à genoux à l'église a l'air d'une sainte. C'est toutes les images qu'on a vues avant dans le film.
And now coming to a man's house to clean it for him?
But That was just my way of being a good Christian act.
I know it was, Mary Kay Danaher. And it was nice of
you. Not at all.
Il faut peut-être ajouter aussi que le personnage de Maureen O'Hara vient, alors que le cottage a été abandonné depuis des décennies, quand il rentre dans le cottage, elle a tout nettoyé, elle a fait un petit feu, tout est en ordre. Oui, et donc elle signifie déjà, au fond, elle a préparé cette maison que plus tard elle va habiter, puisqu'elle va devenir sa femme, et elle a préparé cette maison pour lui. Donc déjà, elle a dit quelque chose, au fond, de son adhésion. Ouais. Et donc ce baiser est un baiser... on pourrait dire non consenti, mais elle a donné tous les signes de sa générosité, de son attention à cet homme. C'est ça qui est vraiment superbe. Je me souviens, j'ai fait un voyage en Irlande et je suis parti sur les traces du film près de Galway. Et à un moment, je roulais sur la route et j'avais avec moi ma femme et mes deux fils. Et tout d'un coup, j'ai vu le pont, parce qu'il y a un vieux pont qui date du XIVe siècle. Et j'ai freiné pour aller voir le pont de l'Homme Tranquille. Et derrière moi, il y avait un 15 tonnes. Et vraiment, mais j'aurais pu tuer toute ma famille. Le 15 tonnes a klaxonné comme un dingue. Il m'a doublé parce que j'avais freiné sur la route comme ça sans crier gare pour aller voir le pont de l'Homme Tranquille.
Retour en France avec ce film poétique et sensuel.
Ah, c'est merveilleux.
Michel, la cinquantaine, infographiste, tombe en arrêt un jour devant les photos de kayak, en monte un en cachette de sa femme et part enfin sur une rivière inconnue. C'est comme un avion de Bruno Podalides, 2015. Merveilleusement politique, ce film, non, Philippe Le Guay.
Merveilleusement poétique, en effet.
Sensuel
et enfantin. Bruno Podalides, c'est vraiment un metteur en scène que j'aime énormément. Nous partageons en plus le même ingénieur du son, Laurent Poirier, qui alterne tantôt les films de Bruno, tantôt les miens, et puis d'autres, fort heureusement, parce qu'on ne tourne pas comme si souvent que ça. Mais donc on a ce point d'ancrage tous les deux, et j'admire chez Bruno la façon au fond dont il organise des récits. Je dirais pas que ce sont des récits sans dramaturgie. Ce qu'il y a de terrible parfois au cinéma, c'est l'obligation de raconter. On doit raconter, on doit tenir un spectateur, on doit construire des scènes, un récit. Alors que souvent, ce qu'il y a de plus beau au cinéma, et ce dont le spectateur se souvient le plus fort, ce sont des moments volés, des moments en suspens, des moments qui nous parviennent en dehors de la construction dramatique. Et cependant, il faut cette construction dramatique pour que ces moments nous parlent. C'est toute cette espèce d'équation très, très, très subtile qu'il faut organiser au cinéma. Et parfois, par exemple, il y a un paysage filmé, mais qui arrive après une scène très dramatique, un conflit entre deux personnages, et tout d'un coup, il y a un suspens, une aube qui se lève. Et ce plan de 15 secondes, presque hors récit, tout à coup nous renvoie à ce que j'appellerais ce sentiment d'appartenance au monde. J'espère que je me répète pas trop, mais qui est quelque chose que le cinéma, au fond, est là. On peut dire que quand Lumière a filmé les feuilles qui bougent, ou le train qui arrivait en gare, ou la partie de cartes de son père avec ses oncles, il filmait quelque chose de l'instantané, de quelque chose qui était là sous ses yeux, et qui l'émerveillait, qui le charmait. Et c'est ça qui est si dur à restituer au cinéma, et je trouve que le cinéma de Bruno Podalides, il parvient de la première à la dernière image, il arrive à construire un bâti dramatique, souvent très, très ténu, qui maintient notre intérêt, et c'est le cas de ce petit miracle qui est comme un avion.
Et notamment sous cette chanson de Moustaki.
Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai.
En fait, c'est sur une scène magnifique. Et il prend sa douche et Agnès Jaoui, qui est la patronne de cette auberge, lui délivre des petits post-it pour qu'il la rejoigne dans sa chambre. Elle est merveilleuse, cette scène.
C'est une scène merveilleuse parce que les post-it, il les suit un peu comme un comme le petit pousset remonte le chemin des cailloux blancs pour arriver au corps nu d'Agnès Jaoui, mais dans un nu merveilleusement stylisé, puisque elle a un post-it sur la pointe de ses seins. Elle est là, opulente, souriante. Et il a réussi, Bruno Padelès a réussi à contourner, au fond, le réalisme du nu au cinéma pour proposer une image poétique et lumineuse.
Et poétiser le post-it, il fallait le faire.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Pardon. On va écouter juste la fin de cette scène avec le dialogue entre les deux.
J'ai adoré le petit poussé, ton jeu de piste.
T'aimes bien te laisser porter par le courant, toi.
On n'a pas le choix.
On remonte pas une rivière.
Oui.
Finalement, t'arrives à justifier la passivité.
Mais non. Parce que le courant, il faut savoir le sentir, l'accompagner.
Il faut savoir se laisser porter.
J'apprécie assez que tu finisses mes phrases.
Je vais au-devant de tes pensées. Parce que t'es un peu lent.
D'ailleurs, je me rends compte que ici encore, là, il y a la rivière.
Oui.
De la même façon que dans notre pain quotidien, il y avait cette rigole d'eau qui vient fertiliser la terre, ou que dans ce bout du Sauver des eaux, il y a le fleuve. Et la fin du film de Renoir aussi, Baudu revient dans l'eau.
Oui.
Et il y a d'ailleurs deux façons pour les metteurs en scène de traiter de l'eau au cinéma. Il y a Renoir et l'eau fertile, et l'eau synonyme de désir. Et puis il y a Fritz Lang, et c'est l'eau noire, c'est l'eau qui contient le cadavre, c'est l'eau qui va inonder la ville secrète la ville cachée souterraine de Métropolis. Et c'est vraiment une position assez curieuse, assez intéressante.
Oui. New York, Manhattan, célébré par Woody Allen dans ce film. Manhattan, c'est un chant d'amour sur New York, hein, ce film, avec la musique de Gershwin.
C'est, comme vous dites, c'est une célébration. Ici encore, alors là, on est loin de John Ford et de l'Irlande, on est loin de Monument Valley, on est dans un cadre urbain, on a Woody Allen, l'intellectuel juif névrosé, et pourtant, du fond de ses névroses et du fond de ses blocages, de ses inhibitions, il y a cette pulsion de désir qui l'amène vers la ville et qui le porte, et cette célébration, la musique de Gershwin. Et puis il y a aussi cette séquence où il énumère les choses qu'il aime dans la vie.
Et bien justement, on va l'entendre.
My idea for a short story.
Thème pour une nouvelle sur les habitants de Manhattan, toujours en train de se créer d'incroyables problèmes névrotiques totalement inutiles, car ils les empêchent de traiter les problèmes autrement plus terrifiants et insolubles de l'univers.
Bon,
je veux une démarche optimiste. Bon, alors pourquoi la vie vaut-elle d'être vécue? Ça, c'est une bonne question. Certaines choses font que je crois qu'elle vaut la peine d'être vécue. Lesquelles? Pour moi, je commencerai par Groucho Marx. Une chose parmi d'autres.
Willie Mays and the second movement of the
Le second mouvement de la symphonie Jupiter.
And Louis Armstrong.
Louis Armstrong.
Potato Head Blues.
Dans l'enregistrement de Potato Head Blues.
Swedish movies.
Les films suédois.
Sentimental Education by Flaubert.
L'éducation sentimentale de Flaubert.
Marlon Brando, Frank Sinatra, those incredible
ces époustouflants
apples and pears by Cézanne,
pommes et poires de Cézanne,
the crabs at Sam Woese,
et le crabe chez Sam Woese,
Tracy's face,
le visage de Tracy.
Du coup, j'ai une question pour vous, Philippe Le Guay. Pourquoi la vie vaut-elle d'être vécue?
Là, vous me prenez au dépourvu. Souvent, je me dis, au fond, on devrait pouvoir, dans un film, arriver à faire ce que Woody Allen est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire d'énumérer les choses qu'on aime et de pouvoir les filmer. Ce serait, au fond, si simple. Et Et c'est d'ailleurs pas innocent que, au fond, Sacha Guitry filme Jacqueline de Lubac, qui est sa femme dans sa vie. John Ford filme Maureen O'Hara, dont il était amoureux, évidemment, dans la vie. J'espère que je ne dévoile rien à ça. Et bon, moi, j'ai jamais filmé une femme dont j'étais amoureux. Peut-être parce que, aussi, spontanément, en fait, j'aime tous les acteurs. Vraiment, hommes et femmes confondus. Et les acteurs, je pense, ce sont quelque chose qui vous rapproche du vivant. Et je pourrais pas imaginer d'écrire un personnage que je n'aimerais pas, même si le personnage est diabolique. Là, je viens d'écrire un personnage qui était vraiment assez horrible, joué par François Cluzet. Mais je l'ai aimé dans ce qu'il défendait de lui-même, de sa folie.
Mais pas répondu à ma question, vous, qu'est-ce qui vous...
Non, alors, peut-être que cette émission essaie d'y répondre. C'est-à-dire que ce que j'essaie de saisir plus ou moins maladroitement dans les films, c'est cette espèce d'élan. Cet élan. Et je me rends compte d'ailleurs en faisant ce programme que c'est pas toujours ça que j'ai réussi à faire. Peut-être, peut-être dans Les Femmes de Sixième, il y avait ce personnage qui était en état de désir. Et là, peut-être je me suis rapproché de... C'est ce que j'essaie de définir dans cette émission. Ouais.
C'est bien d'avoir encore des choses à dire.
J'ai l'impression que j'ai un grand boulevard devant moi.
Ben voilà, c'est super.
Et qu'après, on aura tout vu, je vais pouvoir me lancer enfin au travail.
Vous restez avec nous, on écoute Liane Lavasse et on se retrouve après. Il est quand même 10h50, Laurent.
Et que fait-on ?
On a des conseils à donner. On va commencer par deux livres, dont un très intriguant, Laura Antonelli n'existe plus, de Philippe Brunel aux éditions Grasset, l'actrice oubliée dont Visconti disait qu'elle fut la plus belle femme du monde.
Mais oui, et c'est vraiment, il faut se réjouir que Philippe Brunel ait pris le soin, notamment de mettre roman sur la couverture, parce que c'est effectivement pas une sorte de bio un peu chronologique comme ça, qui serait pas forcément très intéressante, mais au fond, on a l'impression d'une sorte de remake de Sunset Boulevard ou de La Comtesse aux pieds nus, c'est-à-dire qu'on est à la recherche de quelqu'un, il invente un détective qui part comme ça à Rome, à la recherche de ce fantôme, Laurent Antonelli, qui vit repliée sur elle-même dans une villa italienne, suite à une sombre affaire de cocaïne et de descente aux enfers qui s'en est suivie pour elle. Et c'est donc une sorte de kaléidoscope de choses très impressionnistes, avec une très très belle écriture, très travaillée. Est-ce qu'il arrive à sonder le mystère de Laurent Antonelli? Certainement pas, mais avec des mentions comme celle que je vais vous lire, il y a des choses qui affleurent. Il dit « On se méprend sur les actrices. On les croit occupées par leur image jusqu'à l'infatuation. Mais derrière le masque funeste de leur beauté, que de supplices, de tourments. La peur d'être rejetée, de se retrouver sans travail, les entraîner dans des supports contraints de dépendance ou de soumission avec les réalisateurs et producteurs. Monica Vitti vivait en concubinage avec Antonioni. Sofia Loren était mariée à Carlo Ponti. Sylvana Mangano à Dino De Laurentiis. Ingrid Bergman avait remplacé la volcanique Anna Magnani auprès de Rossellini, qui vivait à l'hôtel Via Veneto. Laura, elle, était seule et n'avait pas d'agent. » Voilà, c'est ce genre de choses qui affleurent en permanence dans le livre et qui le rend extrêmement émouvant, extrêmement mélancolique, extrêmement nostalgique. Mais, et vous en parliez, Philippe Bleguet, les acteurs, les actrices génèrent ce genre de sentiments, bien évidemment.
Un super sujet, en fait, je trouve, c'est l'aéroport mis en scène de Léo Soesanto, édité aux éditions Espace et Signe. Tellement de scènes d'aéroport dans les films.
Ben oui, tellement. De Spielberg, arrête-moi si tu peux, et avec l'aéroport de Miami jusqu'à l'aéroport de Tokyo dans Kill Bill, en passant par exemple par le Orly de la jetée de Chris Marker, absolument mythique, et puis le Bird People de Pascal Ferrand. Enfin voilà, ça.
Ou Alain Chabat aussi.
Mais bien sûr, il y en a énormément. Et des films dont certains, vous le disiez, se passent uniquement dans un aéroport. Ouais. On se souvient de Stand By de Rock Stéphanie avec.
C'est vrai.
Voilà, donc vraiment, il y a des films en plus qui ne font pas que un lieu d'être, que l'aéroport soit un lieu de passage et de transit, mais ça devient un lieu de vie. Alors, ce qui est très étonnant, Léo Soesanto termine son bouquin comme ça, et il a raison, les aéroports, contrairement à il y a un an, deviennent des lieux désertés et désertiques en ce moment. Et peut-être nous dit-on même qu'il y en aura de moins en moins parce que le trafic aérien va diminuer. Alors peut-être que le cinéma va devenir le dernier refuge d'une sorte d'archéologie qui est en train de se terminer, qui est celle des aéroports. Et le livre de Léo Soesanto leur rend vraiment hommage. L'aéroport mis en scène aux éditions Espace et Signe. Lisez-le.
Oui. Deux livres maintenant. Deux DVD.
Oui.
Bertha Boxcard, Martin Scorsese, 1973, édité par Rimini Éditions. Ça, c'est une œuvre plus méconnue de Scorsese.
Mais oui, c'est le second film de Scorsese en 1972. Ouais. Il n'a pas encore fait Mean Street, ce qui sera le film suivant. Alors, soyons clairs, c'est un film avec Barbara Hershey et David Carradine. C'est certainement pas un grand Scorsese. Il a fait après des films qui ont beaucoup plus marqué. Mais en même temps, c'est toujours intéressant, évidemment, d'aller voir la généalogie des grands auteurs. Et puis, on se dit quand même que et Tarantino et les frères Cohen ont vu ce film et qu'ils s'en sont souvent inspirés. Parce que c'est tout simplement pendant la Grande Dépression, tiens, comme King Vidor, mais cette fois ce n'est pas contemporain, bien évidemment, c'est le récit d'une jeune fille venue de la campagne qui s'acoquine avec un leader syndicaliste. Et c'est une sorte de Bonnie and Clyde sociale, et qui, durant la Grande Dépression, c'est vraiment un film à découvrir ou à redécouvrir. C'est chez Rimini, c'est un coffret Blu-ray et DVD.
L'autre film, alors c'est un sacré film français, ça c'est La Veuve Coudert de Pierre Grainier de Fer.
Ben oui, évidemment, la Veuve Coudert, on a l'impression de tous connaître le film, mais en même temps c'est pas mal de le revoir parce que quel choc, hein. C'est Alain Delon qui fuit la police et trouve refuge chez la Veuve Coudert, tout simplement, joué par Simone Signoret, c'est le choc attendu, avec Ottavia Piccolo en amante jeune par rapport à la vieille maîtresse que devient Simone Signoret, le tout d'après Simon, dialogué par Pascal Jardin, et une très très belle musique, il faut le dire, de Philippe Sard. On est en 1934, c'est la France d'avant le Front Populaire, et c'est un film là aussi tout à fait crépusculaire. Le DVD et le Blu-ray sont chez la belle collection, il s'appelle Le Coin de Mire, c'est un éditeur super qui fait que avant le film, on peut voir les bandes-annonces, les pubs de l'époque, les actus de l'époque. Donc on est aussi replongé en 1972 au moment où le film est sorti.
On a vraiment le temps de parler de
tant
ce
mieux.
Cadeau offert à Philippe Leguet.
Parce qu'il est impatient, ça fait une heure qu'il nous le demande, en fait, le cadeau, il faut le dire. Hein, voilà. Donc Philippe Leguet, ça y est, il est là. C'est chez Dorian Film. C'est un très joli coffret, visuellement très joli aussi, qui met les frères Prévert en avant. Et oui, les frères Prévert, et l'un évidemment scénariste, l'autre plutôt Jacques, l'autre Pierre plutôt réalisateur, mais ils ont travaillé ensemble et ils ont fait des films ensemble, et notamment L'affaire est dans le sac, qui est une merveilleuse, on appellera, c'est pas une pochade, mais c'est merveilleux d'alacrité, d'allant, etc. Et puis un autre film encore plus méconnu, je crois, qui est Voyage surprise, qui est proposé dans sa version intégrale, et où là c'est un voyagiste, mais qui est totalement désargenté, qui crée la notion de voyage surprise, c'est-à-dire qu'il dit, eh ben, vous ne savez pas où vous irez, et je fais un voyage, mais personne ne sait où on va, moi non plus d'ailleurs, et ils partent comme ça à l'aventure sur une sorte de route enchantée, et on y croise les gens qu'aimaient les frères Prévert, c'est-à-dire Maurice Baquet, bien entendu, mais on y croise aussi Martine Carole, et très curieusement la star Martine Carole, avec toujours l'antimilitarisme, le côté libéral-libertaire des frères Prévert, ce goût des acteurs, ce goût de la balade, ce goût de la digression, ce goût aussi du comique, de l'humour, et tout ça est très très présent dans ce coffret. Il y a d'autres films, hein. Il y a Paris la Belle, il y a Paris mange son pain, qui est un formidable court-métrage de 17 minutes sur voilà, la nourriture à Paris, et puis il y a aussi un téléfilm, La Maison du Passeur, avec deux autres grands comédiens de chez les Prévert, qui sont Raymond Bussière et Annette Poivre. Voilà, c'est tout le groupe Octobre, en fait, qui renaît à travers ce très beau coffret de chez Dorian Film.
Merci, je suis vraiment touché parce que, alors j'adore Jacques Prévert, j'adore le poète, bien sûr, le scénariste, le dialoguiste, et j'ai souvenir d'avoir vu un film de Pierre Prévert, qui s'appelle Jacques Prévert, mon frère, qui est un film de 4 heures où il filme son frère Jacques avec des visiteurs. Il y a Raymond Bussière qui vient et Jacques Prévert est là avec son mégot, sa cigarette, et on le voit en direct. Il est tout surpris d'ailleurs de les invités arrivent. Il y a Jean Gabin. Donc le film est date des années 60. On voit Jacques Gabin, mais qui est comme un petit garçon face à Prévert. Oui. Il est tout humble. C'est tout juste, il ne triture pas sa casquette comme ça devant, sous les yeux de Jacques Prévert. Et on sent Prévert, mais dans sa modestie. Et on le voit dialoguer en direct sous nos yeux. On voit comment les mots lui viennent, comment les phrases se télescopent. Et c'est un moment absolument magique et également de tendresse, de l'hommage de Pierre face à son frère.
Merci beaucoup Philippe Leguet pour votre enthousiasme, votre cinéphilie. Merci infiniment. Eh bien, on va dire qu'on retrouve toutes les informations sur le site, Laurent.
Bien sûr, absolument, tous les films.
Oh, et on vous laisse les clés du générique, Philippe Leguet. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique et on ne s'en lance pas. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Philippe Leguet, j'y étais, j'ai vu de la lumière et je suis monté.